prions encore. Oui, merci, notre Dieu, notre Père, merci de pouvoir encore ouvrir ta parole, cette parole de vie, cette parole qui est lumière sur notre sentier, qui est notre boussole pour que nous puissions marcher de la manière qui convient dans ce pèlerinage, durant ce pèlerinage terrestre. Et nous te demandons, Seigneur, de faire toute la lumière sur cette parole et de faire ta lumière dans nos cœurs pour que nous puissions la saisir, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous encourage, qu'elle nous exhorte, qu'elle nous reprenne. Bref, qu'elle fasse tout son effet, Seigneur, l'effet que toi tu veux qu'il fasse dans nos cœurs pour que nous vivions pour ta gloire. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Et nous reprenons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, Hébreux 8. On va relire les versets 7 jusqu'à la fin du chapitre. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël : voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur !» Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs péchés, leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant « Une alliance nouvelle », il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Avec ce huitième chapitre, nous venons de commencer la deuxième partie de cette épître aux Hébreux. Et donc, après que l'auteur ait élevé devant nos yeux durant sept chapitres le Fils de Dieu comme notre médiateur, le médiateur de la nouvelle alliance, notre grand souverain sacrificateur. Avec ce huitième chapitre, nous commençons d'examiner attentivement l'œuvre de ce médiateur, ce qu'il a fait. Nous examinons en fait ce que le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ a d'infiniment supérieur au sacerdoce de l'ancienne alliance. Je donne encore une fois la définition de ce mot de sacerdoce, qui est un terme qu'on rencontre souvent pendant ces prédications. En gros, on peut dire que le sacerdoce est une fonction, une charge, une mission qui vient de Dieu. C'est la fonction de ceux qui rendent les rapports entre Dieu et son peuple possibles. Dans les deux sens, entre Dieu et son peuple et entre le peuple et Dieu. En fait, la fonction sacerdotale, c'est d'exercer la médiation, le médiateur, celui qui fait le lien entre Dieu et son peuple. À cette charge, à cette fonction de sacerdoce, est liée une dignité, c'est-à-dire que celui qui est investi du sacerdoce, d'un sacerdoce, doit inspirer le respect, la considération, justement parce que c'est un don de Dieu, un don que Dieu fait à son peuple. Dans ce huitième chapitre, la première chose que nous avons commencé à voir, c'est que si Moïse qui était le médiateur suprême de l'Ancienne Alliance, si Moïse, et surtout si tous les sacrificateurs de cette première alliance ont exercé un sacerdoce sur la terre dans une tente, puis dans le temple, un temple fait de main d'homme, en imitation du véritable, comme le dit le verset 24 du chapitre 9, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ, lui, exerce aujourd'hui un sacerdoce dans le vrai sanctuaire de Dieu. C'est au ciel, le vrai sanctuaire de Dieu. Il est assis à la droite de la majesté divine, ce qui fait que c'est un sacerdoce royal. Rien que ce fait-là constitue le témoignage indiscutable de la supériorité absolue du sacerdoce du Christ sur celui de l'Ancienne Alliance. Mais loin d'en rester là, l'auteur de notre lettre, l'auteur désire nous montrer toute la richesse de ce sacerdoce royal, toute la gloire de cette médiation du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il fait donc maintenant. Au verset 6, nous lisions que le Christ avait obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente que la première, qui a été établi sur de meilleures promesses. Et comme nous l'avions dit, ce n'est pas que la première alliance était mauvaise ou défectueuse. Hein, au verset 7, il est dit qu'elle n'était pas sans défaut. Non, elle était comme Dieu l'avait voulu. Et si le peuple d'Israël ne s'était pas révolté contre Dieu, elle aurait rempli le rôle qui était le sien, qui était justement de conduire le peuple à la nouvelle alliance. On se rappelle qu'un des offices de la loi était et est toujours de conduire au Christ. La loi qui nous a été donnée pour nous conduire au Christ. C'est la loi en tant que précepteur ou en tant que pédagogue. Mais comme le disait le verset 19 du chapitre 7, la loi n'a rien amené à la perfection. Et tout naturellement, le sacerdoce de l'Ancienne Alliance non plus. Ce n'est pas que Dieu se soit trompé ou qu'il ait mal calculé son coup. Non, c'est que dans son plan éternel, il manifesterait toute sa gloire au travers de la personne de son Fils bien-aimé. Dieu fait homme, notre Seigneur Jésus-Christ, qui règne pour toujours à la gloire du Père, tout en exerçant son ministère de grand prêtre, de souverain sacrificateur. Donc c'est cette raison-là qui a fait que l'ancienne alliance serait remplacée par une nouvelle. Et alors, le défaut, entre guillemets, de la première alliance, ce qui lui manquait, ce qui lui manque toujours, pour ceux qui continuent de l'observer, ou qui essayent de l'observer, parce qu'il y en a, beaucoup, ce qui lui manque, c'est ce qui permet l'accomplissement des promesses de Dieu. Je le disais la dernière fois, avec la première alliance, on a fait un bout de chemin. Avec la seconde, la nouvelle, on doit marcher encore un bout, mais on a la certitude d'arriver à destination. Parce que c'est en Christ que nous avons l'assurance de devenir participants des promesses de l'Écriture. Le Seigneur Jésus-Christ est donc notre médiateur le médiateur de la nouvelle alliance. C'est lui qui permet la relation, dans les deux sens, comme on l'a dit, entre Dieu et nous. C'était cette même fonction qu'exerçait le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance. Sans notre médiateur, aucune relation avec Dieu serait possible. Et nous serions toujours sous sa colère à cause de notre péché. Alors maintenant, de quel genre d'alliance s'agit-il ? En quoi consiste cette nouvelle alliance ? Nous en avons la réponse. Tout au moins exprimée de manière générale, nous en avons la réponse dans les versets 9 à 12. Et là, nous voyons que l'auteur n'invente rien. Il n'invente rien puisqu'il reprend simplement un passage du prophète Jérémie au chapitre 31, les versets 31 à 34. C'est ce qu'on va voir maintenant. Jérémie a prophétisé ces choses environ 600 ans, grosso modo, avant Jésus-Christ. Et il dit les choses suivantes. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Les jours viennent. C'est donc que le décret du Seigneur, dans le décret du Seigneur, la chose est arrêtée, elle est décidée. Ça se produira à coup sûr. Les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Vous avez vu, il est parlé d'Israël et de Juda. Séparément. Il faut dire qu'au temps où cette prophétie a été écrite, Israël et Juda étaient effectivement séparés depuis environ 300 ans. C'était le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord n'existait plus, et celui du sud, Juda, avait commencé ou allait commencer à être emmené en captivité à Babylone. Et donc ici, de les voir cités tous les deux, Israël et Juda, royaume du Nord et royaume du Sud, laisse présager une réunification, un rétablissement, et même bien plus, comme on va le voir dans un instant. Il s'agit d'une alliance nouvelle, pas comme celle, dit l'Éternel, que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. De quelle alliance s'agissait-il ? En quoi consistait l'alliance que Dieu avait faite avec le peuple hébreu, après qu'il l'ait délivré de l'esclavage de l'Égypte ? Avant de répondre à cette question, rappelons juste ce que ce terme d'alliance signifie. Dans les temps bibliques, et tout particulièrement dans les premiers temps, comme nous le voyons par exemple dans le livre de la Genèse à plusieurs reprises, lorsque deux personnes ou deux groupes de personnes concluaient une alliance, eh bien en fait, ils prenaient un engagement solennel qui visait à garantir la paix entre les deux personnes ou entre les deux groupes de personnes. L'alliance devait garantir la paix entre les deux. Mais quand on parle ici de l'ancienne et de la nouvelle alliance, il ne s'agit pas d'un engagement mutuel, mais d'un engagement unilatéral. C'est-à-dire que non seulement l'initiative de l'alliance vient de Dieu, mais l'engagement aussi, c'est Dieu qui s'engage. Et donc forcément aussi, les clauses qui définissent en quoi consiste l'alliance de Dieu, l'alliance que Dieu va traiter avec son peuple, et comment cette alliance pourra subsister. On peut lire ici dans le livre de l'Exode, chapitre 19, les versets 1 à 9, et au chapitre 24, les versets 3 à 8. Puisque notre texte parle de l'Ancienne Alliance, c'est quand même bien, nous voyons de quoi il s'agit dans l'Écriture. Donc d'abord, chapitre 19 de l'Exode, les versets 1 à 9, qui dit ceci: « Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit !» Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. On voit bien dans ce passage comment Moïse était le médiateur de l'Ancienne Alliance. On lit maintenant dans le chapitre 24, versets 3 à 8. Chapitre 24, versets 3 à 8. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit !» Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. » Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Et là, je pose une question. J'ai insisté 3 fois, je crois, sur la réponse du peuple. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Les enfants, c'est vrai? Ils ont fait ça, le peuple d'Israël? Non. Et non. Et donc, dans cette alliance divine dans laquelle Dieu s'engage solennellement, c'est le respect des clauses par la partie adverse, ici le peuple d'Israël, c'est son respect des clauses qui lui assurera les bénédictions de l'alliance. L'alliance est un don gratuit de Dieu. Mais la relation heureuse et paisible entre l'Éternel et Israël exige de la part du peuple un comportement exemplaire. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. C'est la réponse du peuple que nous venons de lire. Mais nous pouvons encore aller regarder un texte tout à fait clair par rapport à ce que nous sommes en train de dire sur les conditions de l'Alliance. Et c'est vers la fin du livre du Deutéronome, au chapitre 30, depuis le verset 15 jusqu'à la fin du chapitre. Un texte très éclairant. Deutéronome 30, les versets 15 jusqu'à la fin. Vois, dit l'Éternel à Israël, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà donc en quoi consiste cette alliance, cette ancienne alliance. Et comme nous venons de le lire, elle a été scellée avec le sang des taureaux. Mais on reparlera plus précisément de tout ça au chapitre suivant. Ça, c'était juste pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit quand nous parlons de l'ancienne alliance. Donc le prophète Jérémie rapporte les paroles de l'Éternel en disant « Je ferai avec la maison d'Israël et la maison du Juda une alliance nouvelle, pas comme celle que je traitais avec leur père, parce que cette alliance-là, ils l'ont rompue. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Non, ils l'ont rompue. Ils n'y ont pas persévéré. Ils se sont révoltés. Ils ont endurci leur cœur. Avec quel résultat ? L'abandon de Dieu. » Dans le prophète Osée, à la fin du verset 6 du 4e chapitre, il est dit ceci, « Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Ce sont des paroles fortes. Mais Jérémie continue. Verset 10 de notre lettre aux Hébreux. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » D'abord, on voit ici que l'Éternel ne fait plus la distinction qu'on avait vue tout à l'heure entre Juda et Israël. C'est toute la maison d'Israël qui est comprise dans la nouvelle alliance. Mais nous savons par le Nouveau Testament et notamment par la plume de l'apôtre Paul que le vrai Israël, les vrais Juifs, ce ne sont pas ceux qui en ont l'apparence, qui le sont par la chair, par la main des hommes, mais ce sont tous ceux qui ont reçu la circoncision du cœur. Les vrais fils d'Abraham ne le sont pas par la chair, mais par l'esprit. Et ceux-là, ces vrais fils, manifestent une foi semblable à celle de leur père dans la foi, justement, donc Abraham. Par conséquent, si nous sommes dans la foi, nous pouvons aisément nous inclure dans ce terme de maison d'Israël. C'est la Jérusalem céleste, l'Église fidèle de tous les siècles. Et cette Église, l'Église de Jésus-Christ, réunit des hommes de tout peuple et de toute nation. Et donc l'Éternel, dans cette prophétie de Jérémie, dit qu'après ce jour où mon peuple d'Israël, selon la chair,
a jeté mes lois derrière son dos, après que je l'ai moi aussi abandonné, bientôt, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Quand Dieu a conclu la première alliance avec le peuple hébreu, où avait-il écrit sa loi? Tu sais, Hugo? Il avait écrit où sa loi, la première fois, Dieu?
Sur
les tables. Hein. Il avait gravé sur des tables de pierre. C'était là qu'elle était la loi de Dieu. Et maintenant, sur les cœurs de chair, sur les cœurs de tous ceux qui lui appartiennent. Quelle différence! Avant, il n'y avait que le témoignage des hommes, les sacrificateurs et les scribes, les lévites, les prophètes aussi. Bref, il n'y avait que les hommes qui proclamaient la parole de Dieu au peuple. Et l'effet n'a pas été franchement concluant. Puisque le plus souvent, c'est comme si ces porte-paroles de l'Éternel s'adressaient à un mur ou à des sourds. C'est comme si la parole de Dieu n'avait aucun effet. Pire que ça, c'est dans ces cœurs pécheurs, elle ne produisait souvent que l'endurcissement. Eh bien, mes chers frères et sœurs, il ne peut pas en être comme ça pour les véritables enfants de Dieu. Non, parce que maintenant, avec la nouvelle alliance et la loi du Seigneur écrite dans nos cœurs, nous avons en même temps une puissance, acte 1.8, une puissance pour nous conduire dans la vérité et pour nous appliquer cette parole à nos vies. J'ai parlé bien sûr de la personne du Saint-Esprit. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, dit Jérémie. Ça, ce n'est pas une parole nouvelle. L'Éternel l'avait déjà prononcé en parlant de son peuple sous l'ancienne alliance. Mais tout ça n'avait qu'un goût d'inachevé. Oui, c'était le peuple de Dieu. Oui, Israël se réclamait de l'Éternel. Mais pourtant, si peu lui était consacré, si peu, il y en avait, mais si peu. Aujourd'hui encore, le Seigneur dit à l'Église, « Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Non, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Et la foi, par définition, la foi est obéissante. Pourquoi est-ce que je dis que la foi est par définition obéissante? Je l'ai déjà dit pas 50 fois, mais déjà souvent. Parce que la foi est obéissante, parce que ce que je crois, et qui fait donc l'objet de mes pensées, de ma réflexion, ce que je crois influence nécessairement ma manière de vivre. Si je pars pour un voyage à l'étranger et que à l'aéroport à Genève, on me dit que je dois être prêt demain matin là-bas à 8 heures, je ne vais pas rester les bras ballants et à m'occuper d'un tas d'autres choses jusqu'à demain matin 7h30. Puisque j'ai reçu comme vrai le fait que je dois me présenter à 8 heures, je ferai tout ce qui est nécessaire pour être à l'heure, sous peine de manquer mon avion. Comme je ferai sans doute tout ce qui est nécessaire pour être prêt quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Celui qui ne se prépare pas à son départ, pas le départ au Brésil, mais celui qui ne se prépare pas au départ avec son Dieu, c'est qu'il ne croit tout simplement pas à la promesse du retour du Seigneur. Et s'il ne croit pas à cette promesse-là, je ne vois pas les raisons qui feraient qu'il croirait aux autres promesses. Je ne vois vraiment pas. Je crois que ça vaut une petite réflexion dans nos cœurs, ça. En tout cas dans le mien. Mais ceux qui ont les paroles de Dieu dans leur esprit, écrites dans leur cœur, ont bien l'assurance que le Seigneur Jésus revient. Et que son Père, le Père du Seigneur, est aussi notre Père et notre Dieu. Et que nous sommes son peuple. C'est un témoignage intérieur que nous donne le Saint-Esprit, comme le dit Romains 8, 16. Et nous arrivons maintenant à un verset qui est généralement mal compris, voire pas compris du tout. Nous allons le relire. C'est le verset 11. « Personne n'enseignera plus son concitoyen. » La Bible Martin a traduit par « son prochain ».« Personne n'enseignera plus son prochain, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur !» Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » On verra la suite dans un instant de ce verset. Ce qui n'est pas compris ici, c'est cette affirmation du prophète Jérémie qu'une fois la nouvelle alliance venue, personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Connais le Seigneur ». Et alors certains pensent, peut-être le pensez-vous vous-même, que puisque le Saint-Esprit habite dans nos cœurs, eh bien nous n'avons plus besoin de recevoir un enseignement qui soit dispensé par l'Église, c'est-à-dire dispensé par les prédicateurs, les pasteurs ou les docteurs. On se suffit à soi-même. On se débrouille par soi-même, puisque la Bible dit que nous en avons les capacités. Et en toute logique, en suivant un tel raisonnement, ben la preuve que vous ne pensez pas ça, c'est que vous êtes là, parce que en toute logique, ben pour finir, on quitte l'Église. On quitte les rassemblements de l'Église. Mais comme nous sommes tous là ce matin, pour nous tenir ensemble dans la présence de Dieu, pour lui rendre ce culte, c'est que nous avons compris que cette interprétation-là est erronée. Et alors, dans ces conditions, on va se demander ce qu'est en train de dire Jérémie. En fait, la réponse est dans le texte. Et il nous suffit d'être un tout petit peu plus attentif à ce qui est réellement écrit. Qu'est-il réellement écrit ? Que l'enseignement dont il est question, ici, se limite à la connaissance de Dieu. Pas une connaissance exhaustive, complète, mais une connaissance qui me fait dire ou bien que je connais Dieu, ou bien que je ne le connais pas. Et là, je vous demande juste d'y réfléchir un instant, de qui tenez-vous votre connaissance de Dieu ? De vos parents ? D'un frère ? D'une sœur ? D'un pasteur ou d'un évangéliste ? Ou peut-être de la lecture d'un livre ? Ah oui ! Vous vous en souvenez ? De qui ? De l'Esprit Saint, oui, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Voilà. Nous tenons notre connaissance de Dieu lui-même. C'est le texte qui le dit. Hein. Et nous savons que c'est vrai aussi. La juste compréhension de ce 11e verset nous renvoie, par exemple, à l'évangile de Jean, chapitre 6, les versets 44 et 45, qui dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, c'est toujours Jésus qui parle, il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Vous avez vu, Jésus aussi, ici, fait référence à Jérémie, en disant, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Et là, notre Seigneur nous dit textuellement que pour venir à Jésus-Christ, l'auteur de notre salut, il faut entendre la voix du Père. Il faut même que le Père nous attire à lui pour que nous l'entendions. Et il le fait par son esprit qui régénère nos cœurs et qui nous ressuscite à une vie nouvelle. Tout ça, bien évidemment, aucun homme n'est capable de le faire. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, depuis le verset 13, nous lisons qu'une fois, Jésus a demandé à ses disciples ce qu'on disait de lui. C'est-à-dire à l'extérieur. Les disciples lui ont donné plusieurs réponses, des réponses différentes qu'ils avaient entendues. Alors Jésus leur a demandé à eux, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et c'est Pierre qui lui répond, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Alors à ce moment-là, Jésus reprend la parole et voici ce qu'il dit à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Voilà, pour connaître Dieu, et nous ne pouvons le connaître en dehors de la médiation de Jésus-Christ, pour le connaître, il s'agit que lui-même se fasse connaître à nous. Et pour répondre totalement à l'interrogation que suscitait ce 11e verset de notre 8e chapitre d'Hébreux, pour la question maintenant de l'enseignement venant du prochain, hein, comme il est écrit, ou du frère, écoutons simplement l'apôtre Paul dans Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 15, qui dit ceci, « Le Seigneur a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Et encore, dans quel but a-t-il donné ses ministères à l'Église ? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Donc, le même Seigneur qui a dit qu'on pouvait avoir la connaissance de Dieu seulement au travers d'une intervention directe du Père, ce même Seigneur Jésus a également institué les ministères d'instruction. Dans quel but ? Pour que toute son Église parvienne à l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est la maturité. L'état d'homme fait, c'est la maturité dont parlait l'auteur de l'Épître aux Hébreux à la fin du 5e chapitre, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et donc, cette instruction dispensée par les ministres de Dieu va permettre aux membres de l'Église de ne pas rester des bébés dans la foi, de ne pas être flottants et emportés à tout vent de doctrine comme des feuilles mortes ou des fétus de paille au temps de la moisson, emportés par la tromperie et la séduction des hommes. Vous voyez comme ce 11e verset est d'un coup devenu beaucoup plus clair. et par aucun artifice, puisque ce sont d'autres passages de l'Écriture qui sont venus l'éclairer. Et ça, c'est la meilleure méthode qu'on connaisse pour comprendre un texte biblique difficile, c'est d'aller chercher ailleurs, dans la Bible, et on appelle ça l'analogie de la foi. Il faut encore qu'on regarde la fin du verset. « Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Ici, je ne pense pas qu'il s'agisse de grandeur. Petit, des grands. Mais il est tout à fait possible, en revanche, qu'il soit question d'âge. Des jeunes et des aînés, des enfants, des personnes âgées. Mais il s'agit plus encore des petits et des grands dans l'échelle de la société. Et c'est ça qui est formidable dans l'Église, c'est qu'elle rassemble, elle unit dans une même foi des riches et des pauvres, des artisans et des intellectuels, des paysans et des ministres, et bien sûr des hommes et des femmes de toute nation. Et devant cette variété de personnes, cette variété de statuts sociaux, on pourrait dire, Dieu ne fait aucune distinction. Non, parce que nous sommes tous un en Jésus-Christ. Nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Le ministre avec le paysan. Tous. C'est vraiment beau, ça. À l'époque, c'était une révolution dans la société. Ça peut l'être encore aujourd'hui. Et alors, comment se fait-il, verset 12, comment se fait-il que Dieu se fera connaître à nous, à tous ceux qu'il va rassembler pour former son Église ? Réponse, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et ça, c'est la grande nouvelle, la grande nouveauté qui apparaît avec la nouvelle alliance. Nous en reparlerons en particulier au début du 10e chapitre. Mais disons déjà que les sacrifices de l'ancienne alliance renouvelaient, en fait, chaque année, le souvenir des péchés. C'est comme si on l'avait graillé chaque fois dedans. Tout simplement parce que le sang des taureaux et des boucs qui étaient offerts en sacrifice ne pouvait pas les ôter. Parce que ce sang animal, lui aussi, il n'était qu'une ombre, qu'une image d'une réalité céleste. Laquelle, ici, de réalité ? La réalité de l'unique sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a présenté à Dieu, son Père, dans le ciel. Et c'est justement par l'efficacité de la mort de Jésus que nous est donnée l'assurance d'être entièrement pardonnés et purifiés de nos péchés. Et non seulement ça, mais encore l'assurance que Dieu... C'est ça qui est fantastique aussi, entre autres, que Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Nous, on n'arrête pas encore une fois, d'aller grailler, dire « Ah, non, mais Dieu, lui, ne s'en souvient plus !» Vous vous rappelez peut-être cette promesse, que cette promesse-là est déjà présente dans l'Ancien Testament. Par exemple, Michée 7, 18 et 19, qui dit ceci, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de son héritage ? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Et nous, on est là, avec la canne à pêche. C'est magnifique. Tu les jetteras au fond de la mer. Ou encore ce texte-là, dans le psaume 103, les versets 8 à 12. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Vous voyez, c'est vraiment ça qui s'appelle être déchargé du poids de sa dette, déchargé du poids de la culpabilité, de la honte, du déshonneur lié à mon péché. Seule la nouvelle alliance nous ouvre une perspective si glorieuse pour notre âme, si apaisante, si libératrice. Et c'est là que nous commençons à entrer dans le repos de Dieu. C'est là aussi que nous pouvons dire avec l'apôtre Jean que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, parce que nous pouvons y marcher le cœur léger, et même le corps léger, affranchi du péché et de sa condamnation. Verset 13, pour terminer, où nous voyons l'auteur faire cette déclaration. Quand le Seigneur parle d'une alliance nouvelle, il déclare en même temps que la première est ancienne. Or, ce qui est ancien a vieilli. Là, c'est une règle universelle. Ce qui a vieilli est prêt de disparaître. On pourrait dire aussi est prêt d'être aboli, abandonné. Mais pourquoi dire qu'il est prêt et non pas qu'il a tout bonnement disparu? Pourquoi ne dit-il pas que l'ancienne alliance a été abolie, que c'est fait? Je propose ici deux réponses à cette question. La première, c'est que l'auteur de la lettre se place du côté de Jérémie, au temps où il a écrit sa prophétie. En annonçant la nouvelle alliance, Jérémie ici, déclarait en même temps que la première était près de disparaître. C'est-à-dire une fois que le Christ serait venu. Ou alors, deuxième réponse, à mon avis possible, la première alliance subsiste toujours quand on s'en réclame, quand on s'y attache. Mais elle est près d'être abolie si on s'approche de la nouvelle. Et elle est abolie quand nous y entrons. Quoi qu'il en soit, une petite conclusion maintenant. Petite par sa longueur, pas par son contenu. Ce qui a finalement caractérisé l'ancienne alliance, c'est ce qui est dit au verset 9. Ceux à qui elle était destinée, les Israélites, n'y ont pas persévéré, en sorte qu'ils ne sont pas entrés dans le pays promis, où ils auraient trouvé le repos. Mais maintenant, ce qui caractérise la nouvelle alliance, ce qui caractérise la grâce de la nouvelle alliance, c'est justement la persévérance. Donc ça, c'est du point de vue des hommes, hein, du peuple de Dieu, bien sûr. Et cette persévérance, rappelez-vous que c'est l'une des critiques, enfin, l'absence de persévérance est l'une des critiques que l'auteur de l'Épître adresse à ses lecteurs. Non, avec cette nouvelle alliance, tous ceux qui sont habités par la loi qui a été écrite dans leur cœur, aussi bien que par l'Esprit de Dieu qui habite en eux, reçoivent l'assurance qu'ils persévéreront jusqu'à la fin. De ce fait, ils connaissent dès aujourd'hui le repos de Dieu, dont nous n'avons pour le moment que les arts, qu'un acompte, mais dont nous jouissons déjà bel et bien les bienfaits par la foi. Alors, encourageons-nous avec ces paroles et remercions le Seigneur pour cette grâce de la nouvelle alliance. Amen.